Bonne soirée à toutes et à tous. Et moi, ça me fait toujours du bien de revenir au GBU. Cette année, à cause de mes études, je suis très très présent au GBU. Donc, quand je trouve une occasion, c'est toujours une vraie joie. Je vois quelques têtes, je connais assez bien. Donc, si j'ai bien compris, ça fait quelques semaines que vous êtes à fond sur le spit, ne pas dire la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. Je vais donc continuer. Et là, le texte qui m'a été assigné, que je vais partager avec vous ce soir, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, donc à partir du verset 17 jusqu'à la fin, c'est verset 20. Et après, nous continuons au chapitre 3, les 13 premiers versets. Normalement, il y avait prévu que quelqu'un devait lire le texte. Ah, Marion.
Donc, 1 Thessaloniciens 2, le verset 17. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises. Mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. Et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions, avec beaucoup d'insistance, de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusqu'à chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de ce que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints.
Merci Marie. Arthur a connu le GBU l'année dernière. Et c'était un ami, il s'appelle Boris, qui l'avait invité. Et tous les 10 ans, depuis une année énorme au GBU. C'était super. Et Arthur, c'est un gars qui est de nature timide. Mais très vite, c'est fait un plein d'années au GBU. Et 5 mois après l'avoir rencontré quelques amis au GBU, il a commencé à s'intéresser. Arthur a fait une découverte. Il a compris que. Il s'est aperçu qu'il était possible d'être étudiant, un étudiant normal, et être chrétien. Témoin était intéressé par ces choses, tout ce qu'il entendait au GBU, la Bible, la foi chrétienne, comment il fallait vivre. Il a lui aussi voulu devenir chrétien. Chose qui a été faite, il est devenu chrétien. Mais je vous dis, à fond, le gars qui est à l'église, il fait presque tout. Il est de la musique, dans les prospectus, il partage, il fait tout. Et au GBU surtout, super actif. Seulement, à la fin de l'année, Arthur a raté son année à la fac. Et puisqu'il préparait aussi un concours de CAPES, là aussi il a échoué. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais sa copine l'a largué. Et d'avoir discuté un peu avec lui, il nous disait qu'avec ses parents, c'était difficile depuis qu'il s'est converti. Parce que ses parents sont des véritables athées. crois pas du tout en Dieu. Et là, tout récemment, on a appris que sa mère avait un cancer. Et ça remonte il y a 3 mois à peu près. On ne le voit plus, Arthur. Ni au GBU, ni à l'église. Et Boris, qui est allé en Australie pour une année, Erasmus, s'est fait beaucoup de soucis. Il ne sait pas quoi faire. Qui est Arthur? Qui est Boris? Je disais tout à l'heure que vous avez commencé à étudier l'épître de Paul aux Thessaloniciens. J'ai quand même pensé à vous rappeler un peu le plan de ces livres, qui est très intéressant, comme toute la Bible déjà. Ce n'est pas plus intéressant que les autres de la Bible, ce sera un mensonge, mais c'est très intéressant comme toute la Bible. Donc le livre, en gros, est divisé en 2 grandes parties. Ça commence par des adresses, donc des salutations, et ça se termine par une prière et des salutations aussi. Et notre texte, je peux passer au deuxième diapo. Ça serait très embêtant, puisque normalement ça fait ti. Tu reviens? Ce que j'ai mis en bleu,
ah ouais.
Et là-bas, ce qui concerne notre texte, notre sujet. Donc on ne va pas faire toute la Bible, toute la lettre, mais ça va être le verset donc, de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et la suite, j'ai pensé également à vous présenter le plan de cette première grande partie. En gros, pour résumer, je n'ai pas tout détaillé. Vous l'avez, hein, je crois que vous avez fait une introduction à l'épître. Donc, la première partie de cette épître, il y a ce qu'on appelle une structure en parallèle. Simplement, l'apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Il répète 2 fois les mêmes choses, sinon il redit. Donc, en gros, vous pouvez lire l'épître aux Thessaloniciens en une matinée. Prenez une demi-heure, vous lisez tout. Si vous avez compris comment est-ce que les idées s'agencent entre elles. Donc, par exemple, là, vous voyez, au verset chapitre 1, verset 2, il dit... Nous remercions Dieu, et là-bas, il répète la même chose. Quand il arrive à partir du verset 2 à 10, il parle de la parole de Dieu parmi les Thessaloniciens, et de la suite, c'est la même chose. Et au fur et à mesure. Et cette première partie s'est conclue par une prière. Cette prière-là, ça concerne la fin de notre texte. Et là aussi, j'ai marqué en bleu ce qui nous concerne. Donc tout ça, là, vous pouvez oublier pour l'instant, la suite. Notre texte. Notre texte, en gros, il y a 2 grandes parties. Je peux faire marche en arrière? Tu vois, c'est tout embêtant. Hein. Il y a 2 grandes parties. Il y a d'abord ça, et après il y a ça. Et ce que je vais proposer, puisqu'après il y a le groupe de discussion, et cette partie, je ne vais pas exposer dessus. Je dirai 2 ou 3 mots rapidement. Et plutôt, on va se concentrer sur cette partie-là. Et là, on va faire un zoom dessus. Je vais passer. Et quand on étudie cette partie-là à fond, ça fait un peu du thème, mais c'est comme ça qu'on m'a appris au jeu, mais je suis désolé. Dieu m'a dit qu'il faut faire l'observation, machin. Donc je ne vais pas changer les habitudes que j'avais. Des bonnes habitudes d'ailleurs. Donc on. Waouh. Donc, voilà notre texte. Du verset 17 du chapitre 2 au verset 10 du chapitre 3. Quand on regarde, ce texte se présente comme ça. Là aussi, il y a comme une espèce de répétition des idées. Donc en un coup, si vous lisez que là, vous avez lu tout ça. Et au fond, je vais passer au diapo suivant. Comme vous l'avez remarqué, au milieu, il y a cette question qui se pose, la souffrance de la foi. Et là, en fait, je mets en exergue le summum de la pensée de l'apôtre dans cette petite péricope, dans cette partie du texte. Et surtout, le but de mon exposé, ça serait un peu de vous emmener à considérer cet ensemble. C'était pas trop vite? Bon. On peut continuer? Bien. Alors pour la suite, pour comprendre maintenant plus précisément comment ça se passe, merci Marion. Je pense à vous, parce que vous avez tout ça, c'est un peu... Donc j'ai essayé de faire les choses de façon la plus simple possible, afin que moi-même je puisse comprendre ce que je vais vous dire. Donc on va aborder les choses sur 3 axes. Premièrement, on va voir ce qu'est c'est une foi qui espère, une foi qui encourage, et enfin, une foi réaliste. Mais pourquoi ces titres? Et simplement, quand vous lisez une fois de plus, là on l'a lu un peu, Marion lit très très vite, un peu de la façon dont je parle aussi, je parle très vite. Donc j'essaie toutefois de lever les pieds... Si vous lisez l'épître, cette partie du texte en tout cas, vous allez remarquer qu'il y a vraiment un accent qui, à première vue, n'apparaît pas. Un accent assez fort sur le thème de la foi. Et là, donc, j'essaie de réfléchir pour voir comment est-ce que Paul a agencé ses idées autour de ces termes-là. Et en creusant, peut-être vous trouverez autre chose, mais moi, j'ai trouvé ces trois choses. Premièrement, une foi qui espère. Paul a connu un grand succès dans la ville de Thessalonique. En 3 semaines, je crois que vous êtes déjà au courant, en 3 semaines, il y a eu, on ne sait pas combien de personnes, mais en tout cas, il y a un grand nombre de personnes qui sont intéressées à l'évangile. On parle de plusieurs femmes, d'ailleurs, qui étaient soi-disant riches, qui avaient beaucoup d'argent, des gens qui ne croyaient pas du tout en Dieu, devant des grands des idolâtres, des ivrognes, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont décidé d'arrêter tout ce qui faisait de mal pour croire en Jésus, pour s'intéresser, pour devenir chrétien. Malheureusement, il y a certains qui ne sont pas toujours contents. Et peut-être que au moment que je suis en train de parler, il y en a qui ne sont pas contents. Donc à Thessalonique, il y a des gens qui n'ont pas été contents. Ils sont opposés à ce que Paul et ses collaborateurs faisaient. Du coup, le pauvre Paul était obligé de quitter la ville de façon plus précipitée. Donc il est parti. Il va continuer son voyage dans notre ville. Et cette lettre que nous lisons, je crois qu'on vous l'a aussi dit, je suis un peu embêté parce que je n'étais pas là au départ. Paul écrit, on pense, il est fort probable qu'il était à Corinth. Donc à peu près à 600 km de Thessalonique. Et alors Paul savait qu'il y a des chrétiens, des gens qui sont intéressés à ce qu'il faisait. Il y a eu de nouveaux chrétiens qui ont cru sérieusement en Dieu. Mais la façon dont il est parti, c'est d'avoir l'air de dire au revoir. Ce soir, je viens de l'apprendre, on va dire au revoir à Daniel. Imaginez-vous un seul instant si Daniel, ce soir on recevrait un mail, puis il dirait que non, Daniel vient de partir. Quel serait notre sentiment? Alors, Paul est parti de façon très précipitée et il portait en lui ses fardeaux. Il dit non, il faudra que je reparte à Thessalonique pour encourager, pour rassurer, pour prendre le temps avec ces nouveaux chrétiens. Manque de bol. Quand nous lisons au verset 18, on nous dit, il y a un gars. Et c'est écrit explicitement, en tout cas dans mon texte, je ne sais pas dans vos bibles comment c'est marqué, que Satan, à 2 reprises, l'empêche. Satan. Alors, juste pour vous rappeler un peu, quand Paul parle que Satan l'a empêché, déjà, les gars qui parlent là, il est vraiment sérieux. Il sait de quoi il parle. C'est pas peut-être, voilà, il a fait un cauchemar, et comme ça nous arrive parfois, imaginez si c'est au moins un démon, tout ça. Non. Il est réaliste. Quand il dit que Satan l'a empêché, c'est Satan. La première chose que nous pouvons arrêter de ces textes, c'est que Satan existe. Je ne sais pas si vous y croyez ou pas. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de Satan. Non. Il y a tellement bizarre que ce n'est pas beau de le dire. Donc parfois, on a tendance à les oublier. On a tellement à fond Dieu, 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 Jésus, Jésus, Jésus pour certaines personnes. Et on oublie qu'il y a Satan. Il y a certaines réalités de la vie, la façon de la réaction de certaines personnes. Oui, il y a l'être humain qui est là, qui agit. Mais il y a l'action du diable. On peut se poser la question, comment un gars comme Paul, quand on lit un peu sa biographie de la Bible, tout ce qu'il a fait, un gars super puissant qui ressuscite des morts, qui, certains endroits, il règle des effets de toucher ça, la mouchoir, je ne sais pas pourquoi il a jeté, qu'il avait essuyé, il avait jeté, et vous êtes malade, vous touchez, vous êtes guéri. Un gars comme ça, qui voit la voie des visions jusqu'au 7e ciel, Satan arrive à s'opposer à lui. Il veut faire quelque chose, Satan lui dit non, tu n'arrives pas. Et Paul est bloqué. Et il affirme dans ses lettres. On peut se dire, mais comment? Donc finalement, Satan, est-ce qu'il a remporté une victoire dans cette partie de la vie de Paul? Est-ce que Paul était tellement découragé avec tout ce qu'il vivait qu'il avait perdu ses habitudes de prière, comme ça nous arrive souvent, quand ça ne va pas trop bien, on rame un peu de la prière, les réunions du GBU, c'est un peu, bon, j'ai été très fidèle, si j'ai raté aujourd'hui, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il était découragé? Et Satan a pu en profiter? Je pense que dans le texte même, on trouve la réponse. Et le texte nous dit que Paul, en réalité, il est confronté à des vraies difficultés. C'est simplement l'opposition, non seulement à Thessalonique, mais quand vous lisez la suite de la Bible, voir que c'est intéressant, c'est dommage de lire juste quelques versets, je vous encourage à lire toute la Bible. Non, mais parce qu'il y a tellement de choses avant et après, que, je sais pas comment vous le dire, comprenez mon émotion. Vous continuez? Donc, normalement, quand tu quittes Thessalonique, tu vas dans une autre ville. Dans cette ville-là aussi, il y a des gens de Thessalonique, là, ont entendu que lui continue ce qu'il a commencé ici-là. Ils viennent le poursuivre. Et il fuit dans une autre ville. Ils le poursuivent. C'était tellement. Et dans tout cela, Paul, l'apôtre, il a discerné que oui, il y a des hommes, voilà, ils n'aiment pas Dieu, tant pis. Mais il y a aussi Satan qui est là derrière, qui veut s'opposer à l'œuvre de Dieu. Vous savez, dans la vie, ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit, que nous soyons conscients ou pas, mais aussi ce que Satan fait. Et ça, c'est une réalité. Il ne faudrait pas que nous oublions. Parce que le texte nous le dit, j'invente rien. Mais, Paul n'est pas découragé. Je vous ai dit, le point sur lequel nous, c'est une foi qui espère. Il dit au verset 19, subitement, on ne comprend pas, mais il y a comme un cri, il rebondit, il dit, mais... Je vais marquer par là. J'ai la version, une vieille version, c'est bon, 1910, il est marqué. Qui est en effet notre espérance ou notre joie, ou notre courant de gloire? N'est-ce pas vous aussi? Devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Malgré qu'il y a cette opposition, cette réalité qu'il est bloqué, qu'il ne peut pas faire grand-chose, Paul ne décourage pas. Et quand vous lisez le texte parallèle, donc le chapitre 3, verset 10, il prie. Il prie et il espère qu'il finira. Malgré ce que Satan essaie de mettre des bâtons dans ses roues, il sait et il espère. Je ne sais pas, vous en quoi, vous fondez vos espoirs. Vous savez, en 2006, lors de la finale de la Coupe du Monde. Ça rappelle les souvenirs.
Je ne connais que 98.
Ah, ouais, j'ai trop vieille, je sais. En 2006, lors de la finale de la Coupe du Monde, il y avait Zidane sur le terrain, contre l'Italie. Coup de boule. Et tous les Français, en tout cas les fans du foot, misaient. Il fallait juste que Zidane mette un but. C'était bon. Mais à la place de ce but spectaculaire, le but de l'année qui devait être, qu'est-ce que nous avons réussi? Un coup de bol sur l'écran. Quelle déception. Il va prendre un rouge, tout ce qui s'est passé. Et finalement, la France va finir par perdre la Coupe du Monde. Ça, c'est une forme de déception. Mais je pense que dans la vie, il y a encore une déception plus terrible que cela. Les sujets sur lesquels on peut être déçu ne manquent pas dans la vie. Et pouvant en compter dans votre propre vie. Paul pouvait être vraiment démotivé. Mais là, il s'appuie sur quelque chose d'assez solide. On nous dit qu'il va dans la prière. Il fonce, il espère. Parce qu'il sait qu'en fait, Satan n'a pas le dernier mot sur sa vie. C'est Dieu. Il me semble que tu as raté des choses.
Ah bon?
Ouais, ouais, voilà. Continue. Voilà, on arrive au deuxième point. Je suis encore dans le temps. Une foi qui encourage. Alors, après cette situation un peu délicate, et Paul qui se bat, qui n'arrive pas à aller parce qu'il y a Satan qui est là, le texte continue. En disant déjà à lui un peu là, tout à l'heure, qu'il est tout content, il rebondit dans la joie. Il y a comme cette. Il y a un nouveau ton qui apparaît dans le texte, vous le lisez. Il est content, il a l'espérance, il a la foi, il sait que ça va aller, le diable, il ne fait rien, il fait ses grimaces, mais ça va marcher. Mais on peut se poser la question alors dans le texte, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Paul, tout à coup, change d'attitude, il est encouragé? Il est encouragé par quoi? Il est encouragé par la foi des Thessaloniciens. Parce que finalement, son but, c'était quoi? C'est d'aller voir ces chrétiens-là, il avait peur. Bon, je vais y revenir tout à l'heure, mais il avait peur que son départ précipité puisse décourager certains qui se sont abandonnés. Mais subitement, il envoie un émissaire, Timothée, qui arrive là, il constate, mais non, les gars, ils vont super bien, la foi est boostée. Et en entendant ces nouvelles, Paul est content. Ils se sont réconfortés, il loue Dieu, il dit tout ce que vous pouvez imaginer. Il est très content. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais simplement, le fait que Timothée passe par là. J'ai marqué un deuxième point là. Le fait que Timothée soit passé par là, c'est-à-dire qu'à Thessalonique, ça lui a réconforté. Est-ce que vous savez, pour vous qui êtes chrétien ou qui s'intéressez un peu aux choses de Dieu, que votre foi, en réalité, votre foi sert aussi à encourager les autres. C'est quelque chose dont nous faisons, nous ne prêtons pas trop attention dans notre façon de vivre notre foi. On met beaucoup d'accent sur la communion, l'intimité avec Dieu. Centré sur moi, centré sur moi, centré sur toi. Mais nous oublions aussi, centré sur les autres. Il y a cette dimension. Et beaucoup ont défini, on vit dans le sémant de la croix, qui est la dimension verticale avec Dieu, c'est aussi la dimension horizontale avec nous. Ce qui montre que il y a. C'est quelque chose de très important. J'ai vraiment envie de. Je ne sais pas comment vous le dire, mais. Actuellement, dans notre monde post-moderne et dans nos sociétés qui sont là où on prend l'individualiste, je pense que là, c'est quelque chose que, étant chrétien, nous qui s'intéressons à ces choses, si nous sommes sérieux dans notre démarche envers Dieu, nous devons principalement y attention. Quel regard avez-vous, rien que de vos amis au GBU, rien que dans votre petit groupe, je ne sais pas, vous êtes 4, 5, 6, peu importe. Quel regard avez-vous les uns les autres? Et encore, si vous êtes dans une église, comment considérez-vous les autres? C'est parfois très triste. La façon dont nous négligeons cette dimension de notre foi pour encourager les autres. C'est une question que je ne vais pas trop développer ici, parce que c'est prévu dans les discussions, on va y revenir. J'espère que vous allez vous faire plaisir à réfléchir sur ces choses-là. Pour continuer, Marion, une fois réaliste, ouais, on va très vite, hein. Une fois que j'irai dans les temps, une fois réaliste. Alors, voilà, oui, je suis sur la bonne page. Paul a envoyé Timothée pour aller constater, voilà, si ça allait bien. Paul, Timothée est allé, il a fait tout ce qu'il fallait, Paul est content. Mais il y avait une deuxième raison. Une deuxième raison pour laquelle Paul envoie Timothée, parce qu'il ne peut pas aller pour voir comment vont ces chrétiens-là, c'est surtout, et c'est marqué explicitement, de façon claire dans le texte, que Paul avait peur. Il craignait. Certains chrétiens disent, et en plus avec raison, n'ayez pas peur. Qu'un chrétien n'a pas le droit d'avoir peur. Ne vous inquiétez de rien. C'est lui-même qui dit aussi Paul. Mais je pense que, étant des êtres humains, ce sont des choses qu'on ne peut pas s'en passer. Même si vous me dites que oui, oui, la Bible le dit, je peux vous promettre, on ne terminera pas cette semaine, en fait, le week-end, il y aura peut-être une situation sur laquelle vous aurez peur. Ça n'a pas dit que vous serez moins chrétien que vous voulez être ce soir. Étant marqué par des péchés, aussi longtemps que nous porterons cette chair, nous aurons toujours des angoisses. Nous aurons toujours nos peurs. Nous aurons nos craintes. Justifiées ou pas, mais voilà, ils seront là. Et Paul ne les cache pas. Il avait peur pour la foi. Est-ce que vous avez peur? Bon, passons de vos situations, je ne sais pas comment. Mais pour la foi de quelqu'un qui venait au GBU, il ne vient plus. Est-ce que vous avez cette crainte à se dire, ah, est-ce que au GBU au moins, ouais, voilà, un passager, nous partager un peu sa vie, tout ça, mais là, on ne le voit plus. Ou encore, simplement d'un ami dans une église. Ou quelqu'un, un ami à l'école, vous avez essayé de voilà, vous passer du temps ensemble, vous parler de ces choses-là, et qui vous voyez vraiment s'éloigner. Quelle est votre attitude? Il y a deux. De façon générale, soit de dire bon, il fait sa vie, hein. Écoute, moi je prierai de mon coin. De toute façon, Dieu est souverain, c'est lui qui sauve, non? Le Seigneur s'en occupe mieux que moi. Donc, ou, soit moi je dis non, Seigneur. Et on va voir l'attitude que Paul va adopter face à cette situation. Il avait peur. Il avait peur que ces jeunes chrétiens qui venaient de découvrir la voie, malgré leur enthousiasme, mais il avait peur au fond de lui qu'ils puissent s'arrêter et abandonner. Parce qu'il connaît les réalités de la vie. Si lui-même, il est en train de vivre des situations difficiles, il est en train d'être persécuté. Si le mot persécuté vous dit quelque chose, je sais que ce n'est pas trop dans nos vocabulaires aujourd'hui, En fait, il était en train d'être poursuivi au point qu'en fait, sa vie était en danger à cause de sa foi. Et quand je parle de la foi, normalement, quelque chose que tu ne m'as pas montré, là, Marion.
Mais je l'ai montré, mais tu n'en as pas parlé, alors j'ai passé vite.
J'avais proposé au départ une définition de la foi, voilà. C'est une attitude de vie caractérisée par la confiance et la dépendance à Dieu. Ce n'est pas une définition exhaustive. Ce n'est pas une définition que vous ne trouvez pas explicitement de la Bible. Parce que la foi, c'est une notion, d'ailleurs, c'est toute... Une fois que je vais vous dire, lisez la Bible. Mais donc, je vais essayer de résumer la façon dont je... Par rapport aussi en relation avec notre texte. Je définis la foi comme étant une attitude de vie caractérisée par la confiance, et la dépendance, j'aurais bien ajouté une dépendance totale à Dieu. Voilà ce que c'est la foi. Là où j'étais tout à l'heure. Voilà. Donc, Paul avait peur que ces chrétiens puissent vaciller, abandonner et repartir de cette vie abominable qu'ils menaient avant, dans l'idolâtrie, dans les jurneries, dans toutes ces choses mauvaises. Et là, c'était la deuxième raison dont je vous parlais tout à l'heure, pour qu'il envoie Timothée chez les Thessaloniciens. Et alors, pourquoi cette crainte? Le thème sur lequel je vous fais tout à l'heure en vous présentant la structure de notre texte, au centre, il y avait cette question de la souffrance dans la foi. Ceci est l'une des choses qu'on n'aborde pas trop, ou sinon qu'on aborde en marchant un peu comme sur les œufs. C'est facile de parler souvent de la souffrance dans le monde, et beaucoup de gens y disent, assez aisément d'ailleurs, s'il existe, pourquoi le mal, qui fait toujours l'objet de nos dialogues veritas et forums aussi. Mais là, quand même, c'est de façon, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre de voir ça dans la Bible. Parce que moi, quand je lis la Bible, je m'attends quand même que Dieu puisse m'encourager. Dieu puisse me faire du bien quand je vais mal. J'attends qu'en lisant la Bible, je puisse trouver du réconfort. J'attends qu'en lisant la Bible, que je puisse être encouragé dans ma foi. Mais là, malheureusement, ce n'est pas trop le cas dans ce texte. Quand nous lisons les versets, donc à la fin du verset 3, que j'ai appelé 3b, et le verset 4, écoutez ce que dit Paul. J'ai relu le texte. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot. Elles, mis pour les souffrances, les difficultés qu'il évoque dans le texte. Dans d'autres versions, il est marqué, vous savez vous-même, nous sommes destinés à cela. Et je signale, il part aux chrétiens des Thessaloniques. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses. Et c'est ce qui est arrivé. Vous le savez bien. Donc non seulement Paul souffre, mais les Thessaloniciens aussi, à cause de leur foi. Et cette attitude qu'ils ont voulu adopter, vouloir plaire à Dieu, ils souffrent. Ils sont persécutés de leur côté par leurs amis, leurs potes, comme ça arrive souvent. Quelqu'un avec qui vous allez bien, tout allait bien, mais une fois que vous commencez à, je ne sais pas si ça vous est arrivé, une fois que vous commencez un peu à parler de Dieu, la personne commence avec le point du recul envers vous. Moi, il m'est arrivé de voir des amis, quand je me suis converti il y a quelques années, des amis qui ne pouvaient plus continuer à être amis, simplement parce que j'étais chrétien. Mais sauf que ça peut aller plus loin. Et d'ailleurs, aujourd'hui que nous parlons, ce n'est pas juste une histoire, mais la réalité est que dans certains pays, le fait d'être chrétien peut te coûter ta vie, la prison ou autre chose. Donc, ce n'est pas du tout nouveau. Normalement, pour nous chrétiens, on ne devait pas être surpris parce qu'il y a à peu près 2000 et quelques années, Paul déjà, à son époque, le vivait. Mais sauf l'apôtre Paul, quand il a parlé de Jésus aux chrétiens de Thessalonique, il dit dans son texte que je vous avais prévenu. Nous, notre tendance, quand nous parlons de Jésus à des amis, à des gens, on veut tout imaginer pour les faire intéresser. On fait des petits gâteaux, toutes les bonnes choses. Mais là, contrairement un peu, c'est pas mauvais ce que je dis pas que c'est mauvais, c'est une très bonne chose. Je connais des amis, des gens qui sont convertis parce qu'ils ont commencé à manger des gâteaux, après des chips, et après ben, la Bible, et après c'est devenu ah, ça m'intéresse. Donc c'est pas mauvais, je ne remets pas en cause cela. Mais seulement, contrairement à là où nous mettons trop l'accent, Paul, lui, il était clair. Il a dit aux gars, aux femmes qui étaient là, aux filles, en leur disant que vous savez, je vous parle de Jésus, voilà, vous aurez la vie éternelle, tout cela. Mais n'imaginez pas que ça va être rose. Ça va être difficile. Ce qui fait que, lorsque les choses sont arrivées, mais de savoir qu'il les rappelle, eh bien, je vous avais prévenu. Et il dit d'ailleurs, de façon très simple, que la souffrance fait partie de notre lot. Il n'y a pas trop longtemps, quelqu'un nous a dit, ah, si bien le dire, il est marqué dans la Bible que chercher premièrement le royaume et la justice, et toute chose sera donnée. Mais sauf qu'on oublie souvent que dans toute chose, il y a la richesse, il y a le mariage, il y a le travail, il y a la réussite aux examens, il y a des bonnes vacances. Et tout ce que vous pouvez imaginer de bien, mais aussi, il y a ces difficultés-là, ces souffrances. Pas simplement la personne qui a dit cette phrase, lui-même, quand vous voyez sa vie, donc je parle de Jésus, c'était pas toujours rose. Et Paul, dont nous parlons ce soir, c'était pas toujours rose. Et avant Jésus, avant Paul, quand vous voyez la vie de Moïse, la vie de David, la vie de toutes ces personnes bibliques que vous connaissez ou pas, que je vous invite de connaître de ce soir, sinon dans les prochains jours, parce que c'est important pour votre vie, quand vous voyez la vie de ces personnes-là qui sont pour nous des modèles, c'était pas rose, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Il y a d'autres qui sont passés par la déprime. Donc ça fait partie de notre lot. Et l'apôtre le dit explicitement, de façon claire. Il ne cache pas, il ne mâche pas ce mot-là. La foi, quand on dit que j'ai la foi en fait, moi je le vois comme, c'est une façon de permettre à Dieu de venir te rejoindre dans la réalité de la vie, dans ton quotidien, dans ce que tu vis. Vous me direz peut-être où est la différence finalement entre un chrétien, une personne qui croit en Dieu, une personne qui voilà, essaie de tout faire pour marcher avec le Seigneur, et une personne qui s'en occupe pas du tout. Quelle sera la différence? Je vous dirai une chose que moi j'ai expérimenté. C'est que je me suis retrouvé dans les mêmes situations avec certaines personnes. Mais le regard que je porte sur la situation n'est pas le même. N'est pas le même du tout, excusez-moi. Le regard, tu peux te retrouver dans une situation de chômage. Tu as fini tes études. Avec une autre personne qui ne connaît pas Jésus. Mais toi, en tant que chrétien, on a commencé à parler de l'espoir, de l'espérance. Tant que Dieu existe, moi je crois, ma vie ne dépend pas, et ça j'aime beaucoup le répéter, ne dépend pas simplement de voilà, la personne qui va me passer l'entretien, machin, parce qu'il faut faire ceci, il faut aller en cas, voilà, tout ça. Derrière, au fond, ma vie dépend de Dieu. Ça, quand tu as compris ça dans ta tête, que si je suis dans ce monde, si voilà, je vis, je dors, je me réveille, je fais ceci, je fais cela, c'est parce qu'il y a une main de Dieu. J'ai commencé à parler qu'il y avait Satan qui existait, mais il y a Dieu qui existait. Et quand vous savez que votre vie, c'est Dieu qui le tient, ça change tout. Si ce n'est pas encore le cas, peut-être ce soir, pour vous, je vous lance un défi. Essayez. Donnez votre vie à Jésus. Dites, je vais marcher avec toi, je vais voir. Je peux vous laisser voir mon numéro, mon adresse. Après quelques mois, vous m'appellerez si ça ne marche pas. Je peux vous dire que avoir la foi, ce n'est pas quelque chose, une option d'une vie. Il y a des chrétiens qui existent, il y a des qui ne croient pas en Dieu. Ou voilà, qui peuvent, non. Il y a quelque chose de bien concret qui nous rejoint dans notre quotidien. Et ça, ça change tout. Et en parlant de souffrance, je ne dis pas que le but de la foi, c'est la souffrance. Non. L'objet de la foi, c'est Dieu lui-même. Mais seulement, dans la réalité de notre foi, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous serons épargnés de toutes sortes de difficultés. Je ne sais pas par quelle situation vous passez actuellement, dans votre vie personnelle, une inquiétude peut-être. une situation sur laquelle vous devez décider, vous ne savez pas trop. Des proches, des personnes. Des personnes que vous portez à cœur. Je ne sais pas quelle situation que vous vivez. Et ça vous affecte d'une certaine manière. Et vous êtes chrétien. Et vous croyez en Dieu. Comment vous le vivez? L'incertitude de la vie qui est devant nous. Comment vous vous projetez dans 2 ans, 3 ans? Rien que pour cet été-là. Comment vous vous représentez là? Comment vous vous voyez? Et si ce n'est pas le cas? Et peut-être aussi, votre situation est tellement bien, tellement confortable, vous avez l'impression de vivre sur un nuage actuellement. Mais même dans ces cas-là aussi, je vous dirais, veillez sur votre foi. Parce qu'en réalité, on ne maîtrise rien. Ce qui était au congrès GBU, je crois que le premier exposé du vendredi soir, c'était ce qu'on nous avait rappelé un peu. Bon, je l'ai dit, c'est parce que c'est mon prof. Voilà, on ne maîtrise rien de la vie. Mais avoir confiance au Seigneur, en comptant sur lui, cet espoir qu'il nous promet par sa parole. Et aussi, en étant entouré par des gens qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, que ce soit dans les GBU, dans l'église, des personnes qui peuvent vous encourager. Ça, ça nous aide à vivre la réalité de notre foi. Voilà, je suis à la fin de mon exposé. Et je vous encourage de continuer à digérer ces choses que nous venons de partager avec le groupe de discussion que, voilà, qui vont se mettre tout à l'heure. Merci pour votre écoute.